Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, eh bien, on va parler précisément aujourd'hui de la durée du travail, puisque pour les salariés, c'est la durée du travail qui, avec le coefficient, finalement, forme le salaire. Alors, je vais m'appuyer essentiellement sur l'expérience du privé, tout en disant qu'il y a cependant beaucoup de similitudes avec le secteur public. Alors, c'est un sujet plus compliqué qu'il n'y paraît, ça devrait être simple, la durée du travail, mais c'est compliqué parce que Martine Aubry a inventé la flexibilité et l'annualisation du temps de travail, puis sous Hollande, Myriam El Khomri a remplacé beaucoup de ce qui était du ressort de la loi en direction des accords collectifs dérogatoires, et maintenant Macron a renforcé encore le pouvoir unilatéral de décision des patrons. Mais on va quand même essayer de s'en sortir sur un sujet qui est apparemment simple et qui ne l'est pas tant que ça. On va essayer d'être pratico-pratique. Alors, tout d'abord, il faut regarder ce qu'est la définition du temps de travail effectif. Eh bien, c'est pas tant la durée pendant laquelle vous êtes à la boîte que le temps où vous êtes à la disposition de l'employeur, selon la formule, sans pouvoir vaquer à vos occupations personnelles. En clair, vous passez sous les ordres. Si, par exemple, vous avez franchi la porte de l'entreprise et que vous êtes quelqu'un qui fait les chantiers, à partir du moment où vous montez dans la camionnette, à partir du moment où vous recevez des consignes, même si vous n'êtes pas sur le chantier, c'est devenu, finalement, du temps de travail. Peu importe que vous soyez déjà à l'ouvrage, dès lors que vous passez à disposition, comme je viens de le dire, c'est du temps de travail. Si on vous fait poireauter, si vous êtes désœuvré, ce n'est pas votre problème en tant que salarié. Vous n'êtes pas responsable de cette organisation du travail. Vous êtes présent et vous devez être payé. Voilà pour le principe de la définition du temps de travail. Alors, il y a quelques particularités. Je vais en citer quelques-unes. Celle du temps d'habillage et de déshabillage. Eh bien, ce n'est pas considéré généralement, sauf des accords plus favorables, comme du temps de travail effectif, mais, il y a un grand mais, il doit y avoir une compensation, pour autant financière ou en temps, parce que finalement c'est une obligation de votre part, dès lors qu'il y a, par exemple, la nécessité de porter une tenue obligatoire. Alors, la loi ne dit rien du temps de douche, mais aussi, dans ce cas-là, il faut regarder finalement votre activité professionnelle. Si ce temps de douche est ramené finalement à l'exposition avec des produits dangereux, eh bien, ça devient une mesure de prévention. Et si c'est une mesure de prévention, cela doit faire donc partie intégrante de la tenue de poste et donc du temps de travail effectif. Donc là, il faut regarder en quelque sorte l'argumentation et la nécessité. Voilà pour ce qui est du temps d'habillage et de déshabillage. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir bien sûr des accords ou des usages plus favorables. Alors, qu'en est-il des temps de pause et des temps de repas à l'intérieur de l'établissement? Eh bien, a priori, ce n'est pas du temps de travail, sauf, encore une fois, en l'absence d'accords plus favorables, et sauf si vous restez susceptible d'intervenir. Donc, si vous êtes dans votre pause repas, par exemple, dans un hôpital, une clinique ou une unité industrielle à feu continu et que vous êtes susceptible de laisser votre casse-croûte pour intervenir, vous êtes à disposition et donc cette pause, ces temps de repas sont du temps de travail effectif puisque on est censé pourvoir venir vous déranger et vous pouvez pas finalement quitter l'établissement pour aller au bistrot d'en face. Donc si vous devez rester dans l'usine par obligation, c'est du temps de travail effectif. Il y a, en ce qui concerne la durée du travail, deux cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes à l'horaire collectif, et donc dans ce cas, le tableau d'horaire doit être daté, affiché, pour donner les informations. Donc affichage obligatoire pour tous ceux qui sont à l'horaire collectif. Si vous êtes à l'horaire individualisé, Cela doit être enregistré et un double de cet enregistrement doit être annexé avec votre bulletin de paie. Attention, pour les horaires individualisés, il doit y avoir le libre choix du salarié. On ne peut vous imposer des horaires individualisés. C'est donc à la fois votre choix et vous avez mensuellement, finalement, un récapitulatif avec votre bulletin de salaire. Grâce aux personnages cités plus haut, hein, Hollande, Macron, Sarkozy, il y a désormais des possibilités pour les patrons d'aménager la durée du travail. C'est pas vous qui l'aménagez, hein, c'est le patron. Aménager la durée du travail sur 9 semaines, c'est-à-dire faire des moyennes, hein, pour les petites entreprises ou 4 semaines pour les grosses. Dans tous les cas, il y a un délai de prévenance en ce qui vous concerne, hein, délai de prévenance de 7 jours, tant sur les changements d'horaire que les changements de durée de travail, en moyenne, hein, puisqu'il ne s'agit pas pour autant de modifier le contrat de travail, mais simplement de l'aménager sur plusieurs semaines. Il existe aussi la possibilité de forfait sur la durée du travail. Mais attention, cela ne concerne que quelques activités et l'accord écrit du salarié dans une convention de forfait. Nos deux derniers gouvernements ont remis au goût du jour une disposition qui était devenue illégale, à savoir les heures d'équivalence. Eh bien, les heures d'équivalence, c'est un peu tout le contraire de ce que je viens de vous dire. Le concept est d'affirmer qu'il y a du temps d'inactivité et que par conséquent, par exemple, 12 heures de temps de présence équivaut à 8 heures de travail effectif. Alors, on retrouve ça classiquement dans le gardiennage, parfois dans la restauration, hein, mais cela doit être non seulement limité à quelques professions, mais finalement encadré par des accords de branche ou par des décrets. Donc tout le monde ne peut pas être soumis à ces heures d'équivalence qui avaient disparu, mais qui reviennent. Bon, si le 19e siècle revient, c'est forcément qu'il y a des gens pour le vouloir. Alors, autre aspect également qui revient beaucoup dans les ordonnances Macron, ça existait un peu avant, mais ça tend à se généraliser, ce sont le travail par astreinte. Allez, astreintes qui sont encore là, facilitées par des décrets de loi ou des accords collectifs. Alors, retenez seulement qu'il doit y avoir une compensation pour ces astreintes, hein, et que si vous passez de l'astreinte à l'intervention réelle, à ce moment-là, ce n'est plus de l'astreinte, ça rebascule en temps de travail effectif. Donc vous étiez à la maison, il y a une compensation, on vous demande d'intervenir, ça redevient du temps de travail. Il y a un jugement récent qui est assez intéressant dans le domaine. Il a tranché sur le fait que de devoir obligatoirement répondre aux appels sur votre téléphone, eh bien, finalement, cela équivaut à être en astreinte, puisque vous n'êtes pas complètement libre. Vous avez l'obligation de répondre pour le boulot, donc c'est de l'astreinte. Voilà un petit peu ce qui peut imager, finalement, cette question de l'astreinte. En ce qui concerne la durée du travail et les maxima autorisés, alors là encore, beaucoup de dérogations, mais le principe néanmoins est que la durée légale de travail est de 35 heures si elle est calculée à la semaine, de 151h67 si elle est calculée au mois, et de 1607h si elle est calculée à l'année. Hors dérogation validée par des accords ou par la loi, la durée maxima de travail par jour est de 10 heures et de 48 heures par semaine. Voilà pour ce qui est donc de la durée maxima de travail. On va parler des pauses, mais puisqu'on va parler des pauses, on va en faire une et on va mettre un petit peu de musique pour respirer. Et après, on reparlera de ce qui est du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Merci pour le poison, le vice et la vertu. Merci pour le boxon, ton amour qui tue. Merci pour la maison et les amis perdus. J'avais Satan dans la maison, mon âme était perdue. Merci pour le danger, te voir te défoncer. Merci pour l'étranger, son autre lit caché. Merci. les Big Bang, les baffes, les coups de pied. Merci pour les nuits blanches, tes humeurs en danse. Merci pour les dimanches, ton amour réussi. Merci pour tes diables sans clou, pour acheter de la C. Pour toujours et pour acheter, j'avais la corde au cou. Merci pour les cafes à la porte et la prochaine huissier. Tu m'as appris mais peu importe, mon moral est d'acier. Merci pour les nuits d'ivresse, c'est notre vie parfaite. Merci pour la sagesse, pointe Dieu sur la tête.
Eh bien, si la pause est finie, on va la traiter sous l'angle de l'entreprise. Alors, après avoir parlé des heures, on peut parler du repos. Il y a deux formes de repos. Il y a le repos quotidien et le repos hebdomadaire. Alors, pour ce qui est du repos quotidien, et là, il y a beaucoup, beaucoup d'infractions dans le domaine, ce repos quotidien doit être de 11 heures minimum entre deux séquences de travail, les deux séquences principales de travail. Alors, pour illustrer, si par exemple, vous avez quitté l'entreprise à 22 heures, eh bien, 22 heures plus 11 heures de repos, vous ne pouvez reprendre le boulot avant 9 heures du matin. Voilà pour ce qui est du repos quotidien. Pour ce qui est du repos hebdomadaire, qui lui aussi est obligatoire, il doit être au minimum de 24 heures consécutives. C'est pas terrible, hein, mais c'est un minimum à respecter, ce repos hebdomadaire. Alors, en général, on connaît assez bien les dispositifs pour les heures supplémentaires, mais on connaît moins bien le dispositif des repos compensateurs. En fait, le repos compensateur, c'est un droit à repos ajouté finalement à la question du paiement des heures sup qui ne le remplace absolument pas, c'est en plus. Donc d'un côté, on a une majoration en sous, d'autre côté, on a une majoration en temps, c'est ce qu'on appelle le repos hebdomadaire. Ça se calcule à l'année. Donc au-delà des 1607 heures effectué par an, si vous en avez fait plus, eh bien vous avez un droit à repos compensateur équivalent à 50% des heures que vous avez faites au-dessus de ces 1607 heures. Donc un droit à repos. Et même 100% d'ailleurs dans certains cas pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc une majoration en temps pour les heures supplémentaires qui seront pour le coup calculées à l'année. Voilà. Alors, en ce qui concerne la durée du travail, il y a assez souvent, et pas seulement dans les petites boîtes, des problèmes parce qu'on n'arrive pas finalement à se mettre d'accord sur la durée du travail qu'on a faite. Alors, il y a un petit truc, ce qu'on appelle le truc du petit carnet, tout bêtement, eh bien, ou du petit agenda, comme vous voulez. Eh bien, c'est tout simplement de noter toutes ces obligations de pointage que vous avez réalisées, de les noter vous-même finalement sur un petit carnet. Ça peut toujours servir et ça peut servir de preuve si précisément il n'y avait pas d'enregistrement dans l'entreprise. En tout cas, si vous avez des doutes, vous marquez vos heures discrètement sur votre carnet ou sur votre agenda. Il y a en conclusion quelque chose à retenir, c'est que les gouvernements récents ont fait basculer beaucoup d'obligations de la loi vers des négociations soit entre les syndicats patronaux et syndicats de salariés, soit entre direction et délégués, et parfois, et ça arrive, le pire a été signé. À vous donc d'y regarder de près là où vous êtes, avec vos délégués, et à vous intéresser à ce qui se passe sur le plan syndical, sur le plan de la représentation du personnel, pour qu'il n'y ait pas d'accord à la baisse dans votre entreprise ou dans votre profession. Dans cette chronique de quelques minutes, vous avez sans doute eu déjà beaucoup d'informations. Je reviendrai ultérieurement sur des cas particuliers, comme par exemple les apprentis, par exemple les saisonniers ou certaines professions bien particulières, comme celle de la restauration. Alors pour finir, pour respirer un petit peu, on va essayer d'oublier tout ce qui vient d'être dit pour parler de la durée du travail du chef. Vous savez, le chef, c'est pas pareil, et donc on va s'intéresser à la durée du travail du chef. Alors d'abord, le chef n'est pas en retard, il est empêché. Le chef n'est pas en pause repas, il est en déjeuner de travail. Et le chef ne dort pas derrière le bureau, il réfléchit. Donc retenez tout ça, puisque évidemment, ce qui est valable pour les uns n'est pas toujours valable pour les autres. À bientôt, c'était la chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh.